Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique. Bienvenue dans cette édition du jeudi 28 mars 2024. Voici d'abord les principaux titres. Au Sénégal, les résultats finaux provisoires et officiels confirment une large victoire de l'opposant Bassirou Diomaye Faye au premier tour. Et le président des États-Unis félicite Bassirou Faye comme président élu du Sénégal et promet renforcement des liens transatlantiques. Au Togo, le bras de fer commence entre l'opposition et le régime après le changement constitutionnel. La longue marche de femmes béninoises vers la politique.
J'ai pris l'habitude d'être matraquée et cela ne me gêne plus du tout. Car avant de me lancer dans la politique, j'ai eu la chance d'avoir eu un grand homme qui me considérait comme sa fille, le président Félix Houphouët-Boigny. Il m'a dit, tu veux faire la politique? Ta peau là, elle doit être une peau de pachyderme.
À suivre les défis et les avancées après 30 ans de démocratie au Bénin. Au Burkina Faso, la société civile dénonce la dégradation sécuritaire et les enlèvements de citoyens. Le Niger a affirmé que les États-Unis vont soumettre un projet de désengagement de leurs soldats. En RDC, liberté provisoire pour un proche de l'opposant Moïse Katumbi, détenu depuis 10 mois. Le futur conseil présidentiel haïtien s'engage à restaurer l'ordre public et démocratique. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo pour l'instant, le journal. Au Sénégal, les résultats préliminaires de la présidentielle tenue dimanche dernier ont été annoncés. Les chiffres confirmaient la victoire dès le premier tour de l'opposant Bassirou Diomaye Faye, qui remporte un peu plus de 54% des suffrages exprimés. Les précisions de notre correspondant Wahani Johnson-Sambou.
Les dés étaient déjà jetés, il ne restait donc qu'à formaliser l'élection de Bassirou Diomaye Faye avec des chiffres. Chose faite ce mercredi par la Commission nationale de recensement des votes. Ainsi, le président élu du Sénégal totalise 54,28% des suffrages, soit plus de 2,4 millions de voix. Bassirou Diomaye Faye devance le candidat du pouvoir Amadou Ba qui cumule 35,79%, soit un peu plus d'1,6 million de voix. Aliou Mamadou Dia complète le podium avec 2,80% des suffrages, devançant l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, quatrième avec 1,56%. Aucun de ses autres candidats restants n'a atteint 1%. Sur les 7,3 millions d'électeurs inscrits, seuls 4,5 millions ont voté, dont 4,4 millions de suffrages valablement exprimés. Quant au taux de participation, il est estimé à 61,3%. Aussitôt les résultats provisoires dévoilés, le Conseil constitutionnel a invité les candidats désirant déposer une requête à se présenter devant son greffe au plus tard ce jeudi 28 mars à minuit. Ainsi, Bassirou Diomaye Faye pourrait être installé dans ses fonctions le 2 avril prochain, comme le prévoit la Constitution du Sénégal. Il succédera alors officiellement au président Macky Sall, qui a tenu hier son dernier Conseil des ministres. Wahani Johnson-Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
Dans un communiqué, le président américain Joe Biden exprime ses félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire en tant que prochain président du Sénégal. Il adresse également ses salutations chaleureuses au peuple sénégalais, soulignant l'importance fondamentale du droit de vote et de son respect pour une démocratie équitable. Et rappelant une collaboration de plus de 6 décennies, le président Biden met en avant les efforts conjoints entre le Sénégal et les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, l'insécurité alimentaire, la crise climatique et la corruption. Enfin, M. Biden exprime son enthousiasme pour le renforcement futur de ses liens dans la promotion d'un avenir pacifique et prospère pour tous. La tension politique s'exacerbe au Togo alors qu'une conférence de presse tenue par des partis d'opposition et des organisations de la société civile a été brutalement interrompue par les gendarmes hier matin, moins de 48 heures après l'adoption d'une nouvelle constitution. Rosine Mounezer.
Cette conférence de presse prévue vers 12 heures locales au siège du parti d'opposition Alliance des démocrates pour le développement intégral ADDI à Lomé, la capitale, a été interrompue et dispersée par une trentaine de gendarmes sous prétexte que ses organisateurs n'avaient pas les autorisations nécessaires. C'est inacceptable. Le régime togolais se permet absolument tout après avoir changé la constitution en catimini, a déclaré Nathaniel Olympio. président du parti des Togolais, PT, est l'un des organisateurs de la conférence de presse. « J'appelle les Togolais à se mettre debout pour faire barrage à ce projet funeste », a-t-il ajouté. Lundi soir, l'Assemblée nationale, dominée par l'Union pour la République, le parti au pouvoir, a validé un nouveau texte instaurant un régime parlementaire et non plus présidentiel. L'opposition craint que ce nouveau changement constitutionnel ne laisse la voie libre à la prolongation du président Fornia Simbé au pouvoir. Mardi, la conférence des évêques du Togo a réagi dans un communiqué. Elle a appelé Fornia Simbé à sursoir la promulgation de la nouvelle constitution et a engagé un dialogue politique inclusif après les résultats des prochaines élections législatives et régionales qui se dérouleront le 20 avril.
Des candidats de l'opposition au Tchad, dont les principaux, ont protesté hier mercredi contre leur invalidation pour la présidentielle du 6 mai et promis des actions de lutte pour barrer la route à la dictature, selon eux, de la dynastie Déby. Ils ont appelé devant la presse toutes les forces vives de la nation à se mobiliser et faire usage de tous les moyens légaux pour sauver le pays de la dictature et promis des actions de lutte sans en préciser les modalités. Au Burkina Faso, une dizaine d'organisations de la société civile ont vivement dénoncé la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays, pointant du doigt les enlèvements de citoyens et autres dérives. Dans une déclaration conjointe, elles exigent du gouvernement de transition le respect de la Constitution, la libération des détenus illégaux et une stratégie antiterroriste inclusive. La situation marquée par des attaques et des violations des droits nécessite une réponse urgente et participative, affirmaient les signataires de la déclaration. Nous tenons de cette information de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré. La junte au pouvoir au Mali a concrétisé sa décision de dénoncer l'important accord d'Alger signé avec les groupes armés du Nord en abrogeant des décrets mettant en place les institutions destinées à son implication pour promouvoir la paix et la réconciliation nationale, a indiqué mercredi le gouvernement. Cette décision est intervenue dans un climat de profonde dégradation des relations entre le Mali et le grand voisin algérien. Au Niger, le ministère de l'Intérieur a annoncé hier mercredi que les États-Unis présenteront prochainement un projet concernant le retrait de leurs soldats du pays après la rupture par le régime militaire de Niamey d'un accord de coopération avec Washington. L'ambassadrice américaine l'a confirmé lors d'une rencontre avec le ministre, le général Mohamed Toumba. Aucune date précise n'a été donnée, mais les deux parties discuteront du désengagement. Cette rencontre intervient au lendemain d'un appel entre le chef du régime militaire, le général Tchiani, et le président Poutine de la Russie. En République démocratique du Congo, Salomon Idi Kalonda, un proche conseiller de l'opposant Moïse Katumbi, a été libéré provisoirement par la justice militaire pour raison de santé après avoir passé 10 mois en détention. Claire Morin-Gibourg.
La mise en liberté provisoire de Salomon Idi Kalonda a été confirmée par ses avocats. Proche conseiller de Moïse Katumbi, M. Kalonda a été arrêté le 30 mai dernier à l'aéroport de Ndjili, à Kinshasa. Détenu depuis lors, il est accusé de collusion avec les rebelles du M23 actifs dans l'est du pays et soutenus par le Rwanda. Son procès s'est ouvert le 17 août à la prison militaire de Ndolo, à Kinshasa, où il a été incarcéré avant d'être transféré le 12 septembre dans une structure sanitaire. Son état de santé demeure préoccupant, a précisé l'un de ses avocats, Hervé Diakiesse, également porte-parole du parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Le parquet militaire accuse M. Kalonda d'avoir été en contact avec les rebelles du M23 et le Rwanda pour agresser la RDC. M. Kalonda et sa défense rejettent ces accusations, estimant que cette affaire est un complot qui vise à éliminer un adversaire politique. Originaire de la province du Maniema, dans l'Est, Salomon Kalonda a été élu député provincial lors des élections de décembre dernier pour le compte d'Ensemble pour la République. Moïse Katumbi est lui arrivé deuxième avec 18% des voix à la présidentielle organisée le même jour et remportée par le président sortant Félix Tshisekedi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le futur conseil présidentiel haïtien qui doit prendre les rênes du pays s'est engagé hier mercredi dans son premier communiqué à restaurer l'ordre public et démocratique. Les gangs contrôlent des pans entiers du pays, dont 80% de la capitale de Port-au-Prince. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le conseil présidentiel promet de remettre Haïti sur la voie de la légitimité démocratique, de la stabilité et de la dignité, ont écrit les membres de cet organe qui doit encore être officiellement mis en place. Ils affirment s'être entendus sur les critères et les mécanismes pour le choix du président ou de la présidente du conseil présidentiel, ainsi que pour la nomination du futur premier ministre intérimaire et d'un gouvernement d'union nationale. Ensemble, nous exécuterons un plan d'action clair visant la restauration de l'ordre public et démocratique, ont-ils ajouté. Ils restent déterminés à soulager la souffrance du peuple haïtien, pris au piège depuis trop longtemps entre la mauvaise gouvernance, la violence multiforme et le mépris de ses perspectives et de ses besoins. Le communiqué d'hier, signé par 8 de ses 9 membres, semble être une avancée vers la mise en place de nouvelles autorités. La dernière arrivée des représentants du Conseil vient d'être désignée. Le Conseil présidentiel haïtien doit représenter les principales forces politiques haïtiennes, ainsi que le secteur privé, la société civile et la communauté religieuse. Il est composé de 7 membres votants et de 2 membres observateurs non votants.
L'ancien sénateur américain Joe Lieberman, colistier d'Al Gore à la présidentielle de l'an 2000, est mort mercredi à 82 ans, a annoncé sa famille. Il est décédé à New York dans l'après-midi à la suite des complications liées à une chute. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, nous retrouvons Nathalie Barge pour vous présenter sa Minute Éco.
La Zambie en proie à la sécheresse fait face à des coupures d'électricité qui menacent d'aggraver la sécurité alimentaire. La Compagnie nationale d'électricité a indiqué travailler avec les forces armées pour assurer la continuité des opérations de meunerie. L'énergie hydroélectrique représente plus de 80% de la production d'électricité du pays. Au Kenya, plus de 78 entreprises locales, régionales et mondiales sont opérationnelles ou en cours de développement dans la ZES de Tatu City, y compris Heineken, Dormans, Copia ou Twiga Foods. Les avantages commerciaux de la nouvelle ville aux portes de Nairobi comprennent la détaxation de la TVA, 10% d'impôt sur les sociétés les 10 premières années et 15% les 10 années suivantes. La Banque commerciale d'Éthiopie a lancé un avertissement à plus de 5000 clients accusés d'avoir profité d'un problème informatique pour retirer ou virer frauduleusement de l'argent. La banque publique a récupéré 80% des quelques 19 millions de dollars que se sont frauduleusement appropriés des clients. Pendant 5 heures, les opérations de retrait n'étaient pas comptabilisées sur les comptes bancaires. L'anomalie avait été partagée via les messageries en ligne. Les récalcitrants ont jusqu'au 30 mars pour rembourser la banque avant qu'elle n'entame des démarches judiciaires.
Et nous passons directement à votre page d'espoir avec Nanit Talani. Bonjour Nanit.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
La République centrafricaine, la Guinée et le Cap-Vert font partie des 4 équipes à avoir remporté des victoires mémorables lors du projet pilote FIFA Series qui vient de se terminer.
Notons d'abord que cette édition pilote a réuni des équipes représentant 24 associations membres de la FIFA et s'est jouée dans 5 pays, l'Algérie, l'Azerbaïdjan, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le Sri Lanka. Sur 3 continents, les 6 confédérations étaient représentées. La RCA a marqué 10 buts au cours de ces 2 matchs, battant le Bhoutan 6-0 et la Papouasie-Nouvelle-Guinée 4-0 au Sri Lanka. La Guinée, quant à elle, a enregistré des victoires 6-0 contre le Vanuatu et 5-1 contre les Bermudes en championnat saoudien. Notons que le Cap-Vert a eu aussi un bilan parfait en remportant 2 victoires, 1-0 contre la Guyane et la Guinée équatoriale, également en Arabie saoudite.
Nanit, la FIFA menace le Kenya des sanctions à cause de l'ingérence d'une partie tierce dans le football.
Le Kenya fait en effet face aux sanctions éventuelles de la FIFA à la suite de l'échec de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération kenyane de football. La FIFA assure qu'elle n'hésitera pas à imposer de graves sanctions à ce pays d'Afrique de l'Est si l'ingérence d'un tiers continue de retarder le processus d'organisation des élections cette année. Je sais que dès que je crois que je ne peux plus être performant ou que je ne profite plus du jeu ou que je ne suis plus en mesure d'aider mes coéquipiers, j'arrête, a déclaré l'octuple Ballon d'Or, rapportent nos confrères de Top Africa Sport. Pour ma retraite, peu importe mon âge, si je me sens bien, je continuerai à jouer, a martelé Lionel Messi.
Page des sports signée Nanit Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakidza de retour avec vous pour les dossiers du jour. À partir du 1er avril, le président nigérian Bola Tinubu mettra en place une interdiction de 3 mois, empêchant les ministres et autres hauts fonctionnaires de voyager à l'étranger avec des fonds publics dans le but de limiter les dépenses publiques liées aux déplacements internationaux. Cette mesure suscite des opinions partagées au sein de la population. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Pour le président nigérian, l'interdiction de voyager réduirait les coûts de dépenses dans un contexte de déficit économique et une nécessité d'une gestion budgétaire responsable. Le président Bola Tinubu et son administration sont critiqués par certains pour leurs fréquentes visites à l'étranger. M. Tinubu n'a pas précisé s'il réduirait ses propres voyages. Réaction des Nigérians dans les rues de la capitale.
C'est une bonne nouvelle. Dans tout le pays, les gens se plaignent du coût de la gouvernance au Nigeria. Et honnêtement, le coût de la gouvernance au Nigeria est trop élevé.
Toutes ces histoires que nous entendons depuis longtemps, je me souviens même du gouvernement précédent. Quand ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils supprimaient les voyages à l'étranger pour se faire soigner et autre chose. Toutes ces choses, mais en fin de compte, ce sont des mensonges.
Le président et ses représentants ont par le passé défendu ces voyages comme étant essentiels pour réduire les problèmes économiques qu'il est accusé d'ignorer. La prise en charge de plus de 400 personnes pour assister à la conférence sur le climat COP28 à Dubaï en novembre dernier a été particulièrement controversée, suscitant la colère en particulier sur les plateformes des médias sociaux. Rebecca Joshua soutient la décision du président.
Tout cet argent, le gouvernement l'utilisera pour d'autres choses comme les routes, les hôpitaux. Comme moi, je suis malade, j'achète mes médicaments. Ils sont très chers, j'ai des problèmes cardiaques. J'achète mes médicaments tout le temps quand je vais à l'hôpital. Sinon, ils disent qu'ils n'ont pas de médicaments.
Depuis son investiture en mai 2023, Bola Tinubu a effectué plus de 15 voyages à l'étranger. Le président nigérien aurait dépensé au moins 3,4 milliards de naira, soit 2,2 millions de dollars en voyages nationaux et étrangers au cours des 6 premiers mois de sa présidence, selon les médias locaux. Certains Nigériens estiment qu'il lui sera donc difficile de faire appliquer sa décision. Chika Kalou est un homme d'affaires.
Faire des annonces ne coûte rien. Il l'a dit, mais est-ce réalisable? Il y a beaucoup de gens dans le gouvernement qui dépendent des allocations. Ils veulent voyager même s'ils n'ont rien à faire. Ils veulent voyager à cause de l'argent qui est en jeu. Donc, si le président ou un autre officiel du gouvernement dit cela, ce n'est qu'une déclaration politique.
Le Nigeria traverse l'une de ses pires crises du coût de la vie depuis des décennies, une situation qui a suscité une colère généralisée. Le blocage de 3 mois des déplacements officiels des représentants du gouvernement est la dernière tentative de M. Tinubu pour contrer la réaction de l'opinion publique. En janvier, le président nigérian a annoncé une réduction d'environ 60% de la taille des délégations officielles en mission, y compris des réductions dans son propre entourage. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Au Bénin, l'histoire politique a été caractérisée entre autres par l'engagement des femmes à s'affirmer dans le milieu politique, certaines luttant pour simplement y prendre leur place, tandis que d'autres se battent pour accéder à des postes de responsabilité. Après plus de 30 ans de processus démocratique, le chemin vers l'égalité est resté ardu, bien que les progrès réalisés par ces femmes pionnières aient permis une plus grande participation des femmes en politique au Bénin. Le reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleura-Dandé.
L'histoire politique du Bénin a connu des femmes engagées qui ont dû lutter de toutes leurs forces pour se faire un nom. C'est le cas de Feu Rosine Viera Soglo, connue pour sa longévité à l'Assemblée nationale, mais qui a dû en baver selon les interviews qu'elle a laissées pour la postérité.
J'ai pris l'habitude de me matraquer et cela ne me gêne plus du tout. Car avant de me lancer dans la politique, j'ai eu la chance d'avoir eu un grand homme qui me considérait comme sa fille, le président Félix Oppué-Boigny. Il m'a dit, tu veux faire la politique? Ta peau là, elle doit être une peau de pachyderme. Rien, mais rien ne doit t'atteindre.
Même si elle n'a jamais aspiré à diriger le Bénin, son courage politique a ouvert la voie à de nombreuses femmes, parmi lesquelles Marie-Élise Guédo, avocate de profession, candidate malheureuse à plusieurs élections présidentielles. Pour elle, l'égalité d'accès aux fonctions publiques n'est pas honnête.
Aujourd'hui, je vois des députés qui disent, oui, la femme. Eux-mêmes, ils ont fait en leur sein une proposition de loi sur l'égalité d'accès aux fonctions publiques entre hommes et femmes. Mais ils sont en pleine contradiction aujourd'hui avec tout ce qu'ils font. Je suis tentée même de dire, est-ce qu'ils sont vraiment sincères avec cette question sur la constitutionnalisation de la représentativité de la femme? Parce que nous sommes des champions en violation des tests, en non-application des tests. Est-ce que ce n'est pas tout simplement de la poudre aux yeux, encore une fois?
Après plusieurs tentatives infructueuses aux élections présidentielles, Marie-Élise Guédo se retira complètement de la vie politique pour se consacrer à la sensibilisation des femmes sur le respect de leurs droits. Elle va même céder sa place à Célestine Zanou qui, contre toute attente, se désiste de l'élection présidentielle de 2016 alors qu'elle portait l'espoir de nombreuses femmes. Elle avait fustigé à l'époque le comportement des partis politiques qui n'avaient Dieu que pour l'argent.
Ce qu'il faut fondamentalement retenir, c'est le désistement, la sortie de la course. C'est une orientation que nous venons de vous donner pour que vous compreniez le sens de l'acte qui a été posé.
Cette déception n'a pas pour autant découragé les femmes qui ont silencieusement creusé leur sillon en défendant des causes nobles, comme par exemple Ricky Amadougou qui s'est annoncé dans un combat contre la révision de la Constitution à travers le vocable « Touche pas à ma Constitution ». Même si aujourd'hui elle est loin de la scène politique, son combat pour l'autonomisation de la femme est connu.
Il n'y a rien de grand, il n'y a rien de beau, il n'y a rien, je dirais, de gigantissime qu'on puisse réaliser pour soi-même, pour sa famille, pour sa communauté, qui ne soit d'abord induit par l'enthousiasme. Vous devenez ce que vous pensez être. Quel que soit ce qu'on dira de vous, quel que soit ce qu'on pensera de vous, vous serez ce que vous avez pensé être. Vous serez qui vous pensez être.
Aujourd'hui, le sacrifice consenti par les pionniers semble porter ses fruits, même si la lutte reste d'actualité. Le principe d'une femme capable de s'incruster dans la gestion publique, qui plus est politique, où tous les coups sont permis, n'est pas encore assimilé par tous les Béninois. Beaucoup continuent de se battre contre ce qu'ils appellent décadence de la société, argumentant que le Bénin est une société traditionnelle qui a conféré à la femme le rôle de diriger la cellule familiale pour l'épanouissement de tous. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Rendons-nous au Burkina Faso pour découvrir une initiative visant à promouvoir la paix, l'union, la tolérance et la coexistence harmonieuse. Malgré la crise sécuritaire, des jeunes ont pris l'initiative d'organiser un moment de partage entre musulmans et chrétiens pendant le Ramadan et le Carême, une démarche saluée par les participants. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Il est juste passé de quelques minutes. L'imam du jour donna le ton marquant la rupture pour les musulmans. Mais ici, il n'y a pas seulement que des musulmans, aussi des chrétiens catholiques, protestants et notabilités coutumières. Si le jeûne musulman et le carême chrétien coïncident, il fallait aussi penser à une rupture collective entre ces différentes confessions religieuses.
Merci à toutes et à tous. Ouais.
Ici, il n'y a pas de barrière religieuse. Chacun pratique sa foi dans le respect de celle de l'autre. Musulmans comme chrétiens trouvent l'initiative intéressante. Abdelkader et Nicole saluent l'initiative.
J'ai décidé de venir à cette rupture collective parce que bon, c'est très intéressant de voir chrétiens, musulmans. Ça veut dire qu'on est tous pareils. Avant de mettre les religions, ça veut dire qu'on peut tous vivre ensemble.
C'est une très belle initiative. Je suis très contente. Voilà. C'est ma première fois de participer, mais vraiment, c'est très important.
Amos Zongnab est chrétien protestant. Il a fait le déplacement pour lui aussi soutenir le vivre ensemble.
Nous savons qu'au Burkina, il y a plusieurs, j'allais dire, confessions religieuses. Et ces confessions religieuses vivent dans une parfaite harmonie. C'est important que les Burkinabés puissent se souder. C'est important d'avoir ce type d'initiative qui montre que le vivre ensemble qu'il y a entre les Burkinabés. Et donc nous sommes très réjouis.
L'idée de la rupture collective est portée par de jeunes comme Mamadi Ouédraogo. Ils estiment qu'au-delà des religions, le Burkina doit continuer à exister.
L'idée, c'est vraiment se retrouver au-delà de nos divergences, au-delà de notre diversité ou de notre appartenance religieuse. C'est dire que nous sommes des Burkinabés. Le Burkina, c'est notre pays. Nous sommes une famille, travaillons main dans la main, restons ensemble. On est d'abord Burkinabés avant d'être religieux. Parce que le Burkina Faso, c'est notre pays. C'est le pays qui nous porte. Donc nous vivons ici. C'est pour dire que c'est Dieu qui a voulu qu'on soit différent, que chacun ait son appartenance religieuse. Mais le final, le meilleur d'entre nous, c'est celui-là qui est le plus utile aux autres. Donc pour nous, le meilleur des Burkinabés, c'est celui-là qui est utile au Burkina Faso et au Burkinabé et à l'humanité tout entière.
Au moins 1000 personnes ont participé à cette rupture collective entre musulmans, chrétiens et coutumiers. L'activité qui n'est qu'à sa deuxième édition se poursuivra les prochaines années, selon ses initiateurs, dans le but de toujours promouvoir la paix et la tolérance religieuse. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
De responsables de l'administration Biden ont pressé le ministre israélien de la Défense d'abandonner son projet d'invasion de la ville de Rafah dans le sud de Gaza où plus d'un million de civils palestiniens cherchent refuge. Ceci intervient alors que les États-Unis et Israël semblent diverger sur la stratégie adoptée vis-à-vis de Gaza. C'est un reportage de Patsy Widakuswara, chef du bureau de la Maison-Blanche, un récit de John Linden.
Au moins 16 personnes ont été tuées lorsqu'une frappe a touché un immeuble résidentiel à Rafah lundi, alors qu'Israël poursuit sa campagne militaire aérienne sur la ville la plus méridionale de Gaza. Les dirigeants israéliens veulent aller plus loin en prévoyant une offensive terrestre, mais les responsables américains les implorent de ne pas le faire. Lloyd Austin, secrétaire à la Défense.
The safety of... La sécurité du 1,5 million de civils palestiniens à Rafah est également une priorité absolue pour les États-Unis. Nous continuons à partager l'objectif de voir le Hamas vaincu. Nous discuterons donc d'approches alternatives pour cibler les éléments du Hamas.
Lors de sa rencontre avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a également exhorté Israël à autoriser davantage d'aide humanitaire à entrer alors que la famine menace les populations à Gaza. Le message des États-Unis sur l'aide et l'offensive à Rafah a été transmis à M. Gallant par d'autres représentants de l'administration, dont le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et Jack Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Il n'est pas certain qu'Israël tienne compte de cet avertissement. M. Gallant a déclaré qu'il souhaitait que les États-Unis accélèrent les transferts d'armes vers Israël.
Nous discuterons également de questions stratégiques et de l'importante coopération entre nos établissements qui garantira l'avantage et les capacités militaires d'Israël.
Les États-Unis fournissent à Israël une aide de 4 milliards de dollars par an, dont 3,3 milliards de dollars qu'Israël doit utiliser pour acheter des armes américaines. Brian Finnegan, conseiller principal pour le programme américain à l'International Crisis Group, joint par Skype.
Dans le meilleur des cas, les États-Unis utiliseraient leur influence considérable, à la fois unilatérale et multilatérale, pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu.
Lundi, les États-Unis ont usé de leur influence diplomatique en s'abstenant à l'ONU, ce qui a permis au Conseil de sécurité d'adopter une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages détenus par le Hamas. Mais jusqu'à présent, le président Joe Biden n'a pas indiqué sa volonté de conditionner l'aide militaire, malgré les protestations l'appelant à mettre fin à son soutien à Israël.
L'experte des Nations Unies qui a affirmé qu'il existait des motifs raisonnables de croire qu'Israël avait commis plusieurs actes de génocide à Gaza a affirmé hier mercredi avoir reçu des menaces mais assure ne pas vouloir démissionner. Le Monde d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manirakiza à ce micro, à la mise en onde de Fatouma Halima Skarara. Un grand merci à la rédaction. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et sur nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.